Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr. Pour l'interview du jour, nous sommes en compagnie de Gauthier Ducatès. Bonjour Gauthier.
Bonjour Tania.
Tu viens nous parler de ton art, ta passion ?
C'est ça, on peut l'appeler par son nom, hein, c'est la bande dessinée.
La bande dessinée, quel vaste domaine !
Ouais, alors moi c'est la bande dessinée alternative, underground, c'est pas le mainstream, c'est quand même assez particulier, mais on va y venir.
Ok, et donc plus précisément, si je te demande quel est ton métier, tu me réponds quoi ?
Je te répondrai que même si je suis venu avec un chapeau aujourd'hui, en fait j'ai plusieurs casquettes.
Ah !
Ouais, alors du coup je vais en retirer quelques-unes, je vais garder celle d'éditeur. Qui est celle qui m'occupe le plus en ce moment de casquette.
Et qu'est-ce que c'est qu'être éditeur ?
Alors, éditeur, c'est un très beau métier où bon, tu te confrontes à beaucoup d'administratifs. Hein, ça, c'est comme dans tous les métiers, il y a une part un peu embêtante, mais il y a une part très romantique aussi. Hein, c'est des auteurs qui te fournissent un projet. Et toi, tu sélectionnes les projets qu'on t'envoie et tu les mets en œuvre en fait, pour trouver la meilleure forme possible pour qu'ils touchent leur public. Et voilà, ça t'emmène très très loin dans des publications de livres, des expos de bandes dessinées expérimentales, des choses comme ça, complètement improbables.
Donc j'imagine que tu représentes une maison d'édition ?
Voilà. Alors, moi, je suis éditeur pour une maison d'édition qui s'appelle The Hoochie-Coochie.
Hoochie-Coochie ?
Ouais.
Ça veut dire quoi ?
C'est un terme d'argot d'ancien argot des Noirs américains. À la base, le Hoochie-Coochie, c'était une danse du ventre qui avait été présentée à une expo universelle à Boston, je crois. En 1895, c'était genre la lambada d'il y a un siècle et des bananes, quoi. Et puis, on a perdu un peu trace de ce mot, parce qu'il est passé dans le langage oral, quoi. Et en fait, les Noirs américains se sont réappropriés le mot, et the hoochie-coochie, c'est un peu, allez, pour rester soft, on va dire la vie de bohème, quoi. Et du coup, il y a une chanson de blues, un standard du blues, qui s'appelle The Hoochie-Coochie Man. Voilà, et c'est vrai qu'avec le copain avec qui on a commencé la maison d'édition, on faisait de la musique et de la BD. Et du coup, on a gardé ce nom parce que ça fait appel aux deux. Et puis, tu vois le principe de la chanson des Beatles qui s'appelle Lucy in the Sky with Diamonds ?
Non.
Si tu prends les initiales du titre, ça fait LSD. Ben, quand tu prends les initiales de The Hoochie-Coochie, ça fait THC.
Ah bon ?
Ah ouais, c'est le petit surnom de la maison d'édition.
D'accord. Et tu veux bien nous raconter un petit peu l'histoire de Hoochie-Coochie, enfin de la maison d'édition ?
Ouais.
Elle a quel âge ?
Alors, officiellement, elle a 16 ans. C'est une adolescente. Ouais, officieusement, elle est aussi adolescente, mais un peu plus grande. Ça a commencé en 2002, en fait, en janvier 2002. Donc, ça faisait quelques temps qu'avec des copains, en fait, on traînait dans des squats artistiques à Paris, à faire des fanzines de poésie, des gravzines, des choses comme ça.
Des gravzines ?
Ouais. Alors, en fait, c'est des petites revues autoproduites, avec des dessins, du texte, des collages, tout ce que tu veux, en tout cas très créatif, et surtout en mode DIY, donc fait par soi-même, quoi. Et on avait cette pratique-là, et puis on était chez moi avec mon pote Étienne Savoie, qui répond aussi au doux nom de Tarabiscouille. Et on a 24 pages en fait, on peut faire un petit fanzine de BD, quoi. Et c'est pile poil le moment du festival d'Angoulême. Qu'à cela ne tienne, on était jeunes, on avait des cartes de réduc, le train à l'époque, c'était pas comme maintenant, ça coûtait que dalle. Hop, on est parti à Angoulême. Et on a dormi dans la rue, on a imprimé le fanzine à 10 exemplaires, on s'est dit qu'on allait vendre, je crois qu'on en a vendu un. Le reste, on les a distribués. Et quand on est rentré à Paris, en fait, on s'est fait engueuler par les copains qui ont dit « Quoi ? Mais vous avez fait ça sans nous ? Ça aurait été vachement plus drôle de le faire à plusieurs. Ah bah, faut qu'on en refasse un deuxième. » Donc, on en a fait un deuxième. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu une maison d'édition qui a commencé à se structurer, qui s'est professionnalisée, qui a eu des succès, des moments de crise. Et là, en fait, on était dans un moment vraiment très critique par rapport à la maison d'édition, puisqu'elle a failli s'arrêter il y a un an et demi de ça. Et moi, je l'ai reprise. Alors, ça a mis un peu plus de temps avec les histoires de Covid. Mais c'est comme un nouveau départ, et c'est un nouveau départ dans le DIY, en fait, pour la maison d'édition.
D'accord, une nouvelle naissance, en fait.
Voilà, c'est la renaissance de The Hoochie-Coochie.
Et du coup, une maison d'édition, c'est une association, c'est quoi, en fait ? Ça rentre dans quel cadre ?
Alors, t'as plein de cadres, en fait. T'es pas obligé de suivre une voie. Nous, on a choisi la voie associative. Notamment parce que, comme on vient de cette culture du do-it-yourself et des squats et tout, les décisions collégiales sont très importantes. Et pour nous, c'était vraiment primordial de se constituer en association et que chacun ait voix au chapitre, voilà. Même si, en fait, là, avec la restructuration, c'est plus tout à fait vrai, parce que je me retrouve en ce moment un peu seul maître à bord, même si j'ai des copains qui sont là dans l'ombre et tout ça, mais qui m'ont accordé leur confiance pour faire des choix éditoriaux. C'est la première fois dans l'histoire de la maison d'édition où ça se produit. Mais en tout cas, on n'a pas voulu changer de format, parce que un retour à un mode de décision collégial peut être réenvisagé. On n'avait pas envie de se priver de cette possibilité qui nous a quand même permis de faire des très très belles réalisations. C'est-à-dire que quand tu es plusieurs à décider, autant les décisions sont plus compliquées, autant quand c'est des partis pris artistiques, il peut y avoir des partis pris artistiques très très forts qui créent des frictions, mais aussi, alors friction, je sais pas, pour moi je le vois pas en termes négatifs, hein. Mais c'est juste qu'en fait, tu as des artistes très différents dont les œuvres ne sont pas juste juxtaposées, mais cohabitent ensemble et créent un ensemble différent, en fait. Et aussi, ça crée des ouvertures. Par exemple, l'un des anciens éditeurs de The Hoochie-Coochie a un gros tropisme pour la Russie. Il a été marié à une Russe. Il parle russe. C'est lui qui nous fait les traductions des auteurs russes. Et du coup, ce qui fait qu'on a des auteurs russes, en fait, à notre catalogue.
Ah ouais.
Et ouais, et ça, si j'avais été toujours tout seul à décider, cette voie, elle n'aurait jamais été prise. Et je trouve ça, en fait, en plus, ces livres-là, je les trouve particulièrement intéressants, quoi.
C'est une richesse.
Complètement.
Vous éditez combien d'auteurs ?
C'est un peu compliqué de te répondre à cette question, parce que, alors, The Hoochie-Coochie a une particularité, mais qui est directement héritée de ce que je t'expliquais donc il y a quelques minutes par rapport au Fanzina et tout. C'est que donc on a eu deux revues pendant très longtemps, qui étaient des fanzines au début, et puis qui se sont professionnalisées petit à petit.
Ça s'appelait comment ?
Alors, la première, elle s'appelait Turkey Comics, et c'était une revue qui avait deux particularités. La première, c'était de proposer des couvertures en gravure ou en sérigraphie. En gros, un côté très manufacturé, complètement hérité de la culture DIY, quoi. Je t'ai ramené d'ailleurs...
Alors attends, la culture DIY, c'est quoi ça ?
Do it yourself. C'est-à-dire que tu n'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Dans une certaine mesure, tu ne vas pas appeler un imprimeur pour imprimer ton bouquin. En fait, tu vas toi-même prendre ton agrafeuse, tes ciseaux, ta photocopie... Enfin, voilà, si tu trouves une photocopieuse et tout.
C'est l'artisanat, en fait.
Ouais, c'est de l'artisanat. Et puis... en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de faire des livres-objets qui répondent pas, en fait, aux standards attendus d'un livre. Et t'as intérêt, pour que ça soit beau, à être très, très créatif. Donc c'est un peu une gymnastique manuelle et intellectuelle qui arrive très vite sur, enfin, sur ta table de travail, quoi. Et moi, c'est pour ça, enfin, c'est pour ça que j'adore ça, quoi. C'est que du coup, ton cerveau travaille, tes mains travaillent, et puis t'as un truc complètement improbable au final, quoi. Et là, je t'ai amené, alors ça date un peu. Ouais. Donc, Torquay Comics, il faut savoir qu'elle a été primée à Angoulême pour le prix du fanzine, en fait, en 2008. Et elle s'est arrêtée en 2017 parce qu'on avait fait 25 numéros plus celui-ci, qui est un numéro un peu commémoratif. Et au bout de 25 numéros, on en avait marre de faire toujours la même chose. Ouais. Donc là, c'est le numéro qui s'appelle 10 ans d'âge, qui date de 2012. Tu vois qu'il y a une couverture qui est imprimée main.
Ouais, c'est voilà. Super beau, ouais.
Et à l'intérieur, il y a des gravures qui sont insérées. Et si tu regardes en fait les pages, donc elles sont toutes publiées en français, mais Torquay Comics, en fait, tu avais une quarantaine d'auteurs par numéro et en moyenne 12 nationalités représentées.
Ah oh, 12 nationalités représentées.
Voilà,
et
ouais.
Comment vous faisiez pour communiquer en fait en 2002?
Alors en 2002, en fait, c'était pas du tout le cas. Hein. C'était juste un fanzine photocopié et puis les premiers numéros, c'était juste une bande de copains. Mais en fait, à partir de 2005, moi j'étais parti à Amsterdam et j'avais visité la galerie Lambic, qui est la plus vieille librairie de bande dessinée d'Europe. Et je leur ai dit, bon, bah, vous avez des fanzines, je voudrais bien voir et tout ça. Et ils m'ont montré un fanzine, en fait, d'un type qui s'appelle Gregory McKay, qui était australien, en fait. Et moi, j'ai adoré son boulot, je lui ai envoyé un mail. Il m'a dit, voilà, j'habite à Melbourne, je fais ça. Il m'a envoyé d'autres trucs. J'ai commencé à le publier. Et puis, en fait, j'ai vu que c'était possible de travailler avec quelqu'un qui habitait aux antipodes, quoi. Donc, partant de là, en fait, ça a été un élément déclencheur et on a commencé, en fait, à... Voilà, moi, dès que je voyage, de toute façon, s'il y a un fanzine qui traîne, je vais mettre la main dessus, je vais ramener... Je suis très curieux de ce genre de choses, quoi. Donc, en fait, on avait déjà plein d'auteurs potentiellement qu'on pouvait publier, qui venaient d'autres pays. L'autre truc aussi, c'est que ma culture bande dessinée, de base, elle n'est pas du tout commune en France, parce qu'en général, tous les gens qui font de la bande dessinée en France, ils ont lu Spirou quand ils étaient petits. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. En fait, j'avais un frère qui habitait en Irlande et puis qui me ramenait des Judge Dredd, c'est des comics d'anticipation anarchiste anglais. Et puis, j'ai appris à lire l'anglais, à lire la BD à 8 ans avec ces trucs super violents, des mises en page ultra baroques et tout. Donc déjà, en fait, j'avais une culture... Enfin, c'était mal barré pour que je fasse de la BD commerciale, en fait.
Et ça t'a intéressé, en fait, à 8 ans
Carrément, ouais, ah ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, en plus, dans Judge Dredd, en fait, il parle dans un argot qui a été inventé par les auteurs, mais c'est un argot du futur.
Un argot du futur.
Ouais, et moi ça m'a posé problème parce que quand j'étais ado, je pensais que. Enfin, quand j'étais pré-ado, je pensais que by grad ou truck, les expressions qu'ils utilisent dans Judge Dredd, en fait, c'était vraiment en anglais, quoi. Donc. Mes profs d'anglais comprenaient pas trop comment je parlais. Voilà.
Et donc, en fait, The Uchiguchi, c'est une maison d'édition d'auteurs internationales.
Exactement. Bah là, en ce moment, je travaille, enfin, je suis en train de lire le projet d'une artiste russe. Donc, j'ai déjà évoqué l'intérêt qu'on a pour la Russie, qui s'appelle Victoria Lomasko, qui est une artiste dissidente russe. Pour faire simple, en fait, la dernière conversation donc, qu'on a eu par mail, le début c'était « Salut Victoria, comment tu vas ?» Et elle m'a répondu deux jours plus tard « Écoute, je viens d'arriver en Biélorussie dans le coffre d'une voiture. » Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça que moi ça ne m'intéresse pas de faire de la BD un peu mainstream, d'occuper un poste éditorial dans une grosse maison d'édition, mais de faire mon truc moi-même, parce que en fait, ce genre d'auteur... Eh ben, tu travailles avec eux quand tu décides de faire les choses par toi-même. Et en fait, parce que ça te pousse à une curiosité qui t'amène sur ces projets-là. Et voilà, donc c'est international. On parlait de Gregory McKay aussi. Là, je suis en train de... Je reviens un peu au sujet administratif que j'évoquais en début d'émission. Je suis en pleine négociation de droits, en fait, pour qu'on puisse publier le troisième tome de sa série jeunesse, qui s'appelle Anders. Donc pour la petite histoire, on a été son premier éditeur. En fait, voyant qu'il était publié en France, les éditeurs australiens ont fait « Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce mec, il est publié en France. Nous, on ne le connaît pas. » Et c'est de... En fait, il y a un éditeur qui est venu le voir, qui lui a demandé une BD jeunesse, et c'est devenu une star de la BD jeunesse en Australie. Et donc maintenant, on se retrouve dans la position où on doit négocier les achats de droits pour pouvoir exploiter ses titres en français. Donc c'est un peu une gymnastique. Mais...
Ouais, et lui, il est d'accord.
Ah bah ouais, complètement. Ouais, mais en fait,
c'est administratif, en fait.
Oui, c'est administratif, mais après, ça se passe super bien avec lui. Il a eu une résidence il y a 2 ans en France. Mmh. Et il est venu chez moi, à Lucandiwa. Je l'ai amené au Vallon de Combeau, c'était en plein hiver. Lui était épaté, quoi. Et là, il m'a dit, ouais, je suis en train d'écrire le 4e tome donc, de l'histoire d'Anders. Ça se passe en plein hiver et ça s'inspire de mon petit séjour chez toi. Donc... Enfin voilà, c'est ça qui est magique aussi quand on travaille avec des gens qui habitent à l'autre bout du monde. Quoi. C'est
que tout il y a un réel échange, ouais. Et du coup, il y a un peu des critères de sélection des auteurs ou est-ce que vous avez une sorte de ligne éditoriale
Alors, il y a une ligne éditoriale qui, en fait, disons, je ne suis pas non plus l'ayatollah de la ligne éditoriale. Mais... Non, disons qu'il y a une base qui a évolué en fonction de qui s'occupait de la maison d'édition et tout. Et là, je suis en train de revenir un peu au basique, au fond d'un manteau, avec des ajouts. Alors, le fondamental, en fait, c'est que moi, j'ai un gros intérêt pour tout ce qui est sciences humaines. C'est-à-dire, moi, la BD, elle m'intéresse quand elle va te parler de littérature, quand elle va te parler d'histoire, quand elle va te parler de politique, quand elle va te parler d'urbanisme, voilà, toutes ces choses-là, quoi. Donc déjà, en fait, un projet, il va m'intéresser à partir du moment où il y a une espèce de rencontre intellectuelle comme ça qui se produit dans le projet.
Avec l'auteur, dans le projet.
Dans le projet, enfin, la façon dont l'auteur le conçoit, quoi.
Ok.
Pour te donner un exemple, on a quand même quelques livres qui sont des adaptations littéraires. On a beaucoup travaillé aussi, et on travaille encore, avec un auteur franco-américain qui s'appelle Christopher Ettinger, et qui, lui, en fait, à chaque livre, traite un sujet d'histoire. Donc, ça a été Jamestown, la première colonie anglaise sur le sol américain, qu'on va rééditer l'an prochain, d'ailleurs. Les Déserteurs, c'est une espèce de fresque un peu ubuesque qui se passe pendant l'Antiquité. Voilà, enfin, c'est Le Temps est proche, qui est une chronique du 14e siècle, qui est le dernier siècle du Moyen-Âge et le dernier siècle avant la Renaissance, du coup, donc il y a une espèce de transition comme ça. Voilà, ça, c'est des trucs qui sont intéressants. Bah, quand je parlais de Victoria Lomasco, elle parle clairement de politique dans ses bouquins. Le dernier qu'on a publié, D'autres Russies, en fait, c'est un pied de nez déjà au nom du parti de Poutine qui s'appelle Russie Unie. Et elle parle de tous les mouvements sociaux qui ont eu lieu en fait, sur les 10 dernières années en Russie. Mmh. Elle parle des oubliés en fait, de la représentation de la Russie que la Russie aime à se donner ou à procurer en fait, aux pays étrangers. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et les ajouts, en fait, c'est que petit à petit... On a des auteurs qui ont commencé à faire de la bande dessinée jeunesse. Et c'est vrai que la bande dessinée jeunesse, souvent, on imagine l'album cartonné, le truc très classique, et nous, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, là, je t'ai ramené le 2e tome d'Anders. Tu vois que c'est une espèce de roman graphique pour les enfants. C'est très épais, hein, y a plus de 200 pages. Alors, du coup, tu vois qu'il y a plein de petites cases,
rond.
En fait.
Ouais, c'est très rond, c'est très enfantin.
Et Grégory, en fait, il a vraiment pensé sa bande dessinée. Si tu veux, il y a très peu d'action par case, mais il y a toujours une espèce de rebondissement de case en case. Et il a essayé de penser, en fait, à la façon dont fonctionnait le cerveau d'un enfant qui lisait un bouquin. Et il a conçu les pages en fonction de ça, essayer de penser les pages de façon la plus adaptée.
Je vais lire le petit résumé derrière. J'ai toujours voulu être courageux et réaliser un exploit incroyable. Je sais que tu as peur, moi aussi, mais c'est l'occasion de montrer notre bravoure. Et au niveau des dessins, en fait, vous avez une ligne, je sais pas, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale dans les maisons d'édition par rapport aux dessins ? Est-ce que ça...
Non, pas du tout, en fait. Enfin, disons que si un auteur me propose un truc... tel que tu le vois, tu vois, enfin, les trucs très classiques de bande dessinée franco-belge, voilà, qu'un autre éditeur pourrait faire sans souci.
Ouais.
Moi, ça va moins m'intéresser, quoi. Mais après, si tu regardes, par exemple, moi, ce que je fais, j'ai un dessin quand même assez réaliste, même si tu sens que c'est pas classique non plus dans sa facture. Grégory, il a un dessin très minimaliste. Du coup, en termes de jeunesse, tu vois, c'est Olivier Philipponneau et Renaud Farras, Détective Roll Mops. Olivier, c'est un super graveur, donc il fait de la gravure sur bois et c'est des sortes de bonhommes picto. Enfin, c'est du coup, il y a quelque chose de très 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 iconique, quoi. Enfin, ouais. C'est des petites icônes. C'est... Et puis, ouais, quand on parlait de Victoria Lomasco. Elle a un dessin de... En fait, elle fait du reportage graphique. C'est-à-dire qu'elle se déplace avec ses carnets et un enregistreur. En fait, elle enregistre les gens, elle les dessine en même temps. Éventuellement, elle retravaille certains dessins ou des photos qu'elle a pu prendre.
Oui.
Mais il y a quelque chose de très pris sur le vif et donc qui se rattache à la réalité. Il y a une forme de réalisme, mais en même temps il y a une volonté d'activiste politique qui sous-tend en fait toute son écriture, donc c'est complètement intégré dans son dessin, dans sa manière de dessiner, quoi.
Ouais. Bah, comment du coup les auditrices et les auditeurs qui écoutent notre interview vont pouvoir voir ces bandes dessinées?
Alors ça fait partie de la renaissance de The Uchikuchi dans le Diwa. C'est que là, je suis en train de terminer les travaux dans une boutique qui est au 43 rue Camille Buffardel à Adi. Donc vraiment juste à côté de la librairie Mosaïque. C'est assez chouette. Et enfin, du coup, cette boutique ne sera pas une librairie. Hein, c'est parce que moi, je vais pas commander chez d'autres éditeurs et tout ça. Je vais surtout présenter mes bouquins et puis quelques bouquins d'autres éditeurs avec qui je suis ami. Je vais pouvoir montrer vraiment les livres qu'on fait dans cette boutique-là. Il y aura une petite partie galerie aussi.
Alors, comment va s'appeler la boutique ?
La boutique, elle va s'appeler The Uchikuchi, tout simplement.
Ouais.
Pour l'instant, elle n'a pas d'enseigne. Ça sera la dernière partie des travaux, je crois.
Ouais.
Mais,
alors, qu'on va donc y trouver de la bande dessinée dans cette boutique et...
Alors, donc il y aura de la bande dessinée, il y aura une galerie, c'est-à-dire que à peu près tous les mois, il y aura une expo. On commence à Noël, en fait, avec une expo de Trois Oeils, qui est une petite maison d'édition jeunesse, qui est copilotée par Olivier Philipponneau, donc le graveur qui fait Détective Roll Mops, dont j'ai déjà parlé. Voilà, c'est des amis de très longue date et c'est excessivement beau ce qu'ils font.
Donc c'est une exposition. Hein,
c'est une exposition, j'aurai un peu leurs livres, ils vont venir juste avant Noël, Inch'Allah s'il n'y a pas de confinement, enfin bon, voilà. C'est super beau. En fait, donc Olivier et Raphaël Anjari, donc qui est sa compagne, eux, ils ont eu en fait, ils ont fait un an de résidence à la Villa Fukuyama au Japon, qui est un peu, en gros, l'équivalent de la Villa Medici, mais en Asie, quoi.
Ouais.
Pour apprendre les techniques de la gravure japonaise ancestrale avec des maîtres japonais, quoi. Donc, ça vaut vraiment le coup d'être vu. Il y aura d'autres expos, notamment de gens que je publie pas. C'est pour ça que j'aurai d'autres bouquins que ceux de Uchikuchi. Au printemps, il devrait y avoir une expo de Kraoman, qui est un auteur marseillais, et qui est féru de montagne, et qui fait un petit fanzine où il relate en fait ses randos. Et il a fait un livre dans une maison d'édition qui s'appelle Même Pas Mal, qui est située à Marseille. Ouais. Et qui s'appelle De Boule et qui relate notamment une randonnée. C'était le premier truc comme ça qu'il a fait. Et maintenant, il continue. Donc, moi, ça m'intéressait aussi de l'inviter pour montrer au public du Diwa, qui est quand même très amateur de montagne, qu'il y a des gens qui sont ailleurs, mais qui aiment la montagne aussi.
C'est beau. Et concernant les expositions, ça pourra peut-être être le cadre d'autres interviews.
Ah bah,
pour les présenter peut-être mieux.
Je pense que il y aura certaines expos qui seront suffisamment marquantes, ouais, pour qu'on invite les auteurs. Surtout qu'il y a vraiment des pièces qui vont être exposées qui posent question. Enfin, je pense à une expo qui devrait avoir lieu aussi en 2021 de Martès Batory, qui est un artiste donc que nous on publie chez Uchikuchi, qui fait de la bande dessinée, mais qui à la base est lithographe, sculpteur, scénographe. Donc là, tu es en face de quelque chose.
Ah ouais.
T'as pratiquement des sculptures parlantes, des choses comme
ouais.
ça, quoi. Ça va être intriguant, quoi.
Donc The Hoochie-Coochie, ça va être donc une boutique de bande dessinée.
Voilà.
43 rue Camille Buffardel à Die.
Ouais.
Donc on va y trouver donc de la bande dessinée, des expositions
et des petits ateliers. Du coup, quand j'ai commencé à parler de cette maison d'édition, on a bien vu qu'il y avait un truc de culture de squat, do it yourself, donc d'éducation populaire. Moi, j'adore transmettre. Par exemple, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai fait des études aux Beaux-Arts d'Angoulême. J'y ai appris la sérigraphie, mais j'y ai pas appris la gravure. Aujourd'hui, je suis meilleur graveur que sérigraphe, alors que j'aurais plus normalement des compétences de sérigraphe. Mais parce que la gravure, en fait, je l'ai apprise en éducation populaire. C'est-à-dire que ce qui a présidé au développement de The Hoochie-Coochie, c'est que le fait que chacun avait une technique, l'a ramenée, la partageait avec les copains, l'enseignait aux autres, et puis on l'a pratiquée jusqu'à se perfectionner. Que ce soit la reliure artisanale, la gravure sur bois, sur lino, les eaux-fortes, la sérigraphie, enfin voilà, plein de trucs comme ça, quoi. Et moi, j'adore transmettre ça. J'ai commencé à faire des ateliers pédagogiques en 2008.
Ouais.
Donc, ça fait
avec des enfants plutôt ou avec des adultes? Alors, les deux mélangés?
Non, c'est vraiment tout type de public. Pour te donner un peu une variation, c'est que ça m'est arrivé de bosser avec des maternelles. Mais j'ai été aussi formateur de bande dessinée en prison. Donc, c'est des publics très, très variés, quoi. Et la façon dont je conçois les ateliers, c'est qu'on apprend la bande dessinée, mais aussi, on fait un travail d'auteur, mais aussi, et parce que c'est quelque part en lien avec ma pratique, on finit par faire un petit fanzine, un petit livret, où on réunit toutes les planches qui ont été faites, et on leur donne une forme. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant parce que...
C'est de A à Z, en fait.
C'est de A à Z. Et puis, que ça soit des enfants ou des adultes, il y a certains participants à ces ateliers où tu les vois complètement introvertis pendant une longue partie de l'atelier. Et puis, plus on se rapproche du moment où on va commencer à fabriquer l'objet, plus là, en fait, ils se disent « Ah, mais... » En fait, je vois la finalité, je la vois différemment. Et là, il se révèle, en fait. Et cette pratique, elle est intéressante. Après, moi, j'ai vécu longtemps aussi à Poitiers, qui est une ville où il y a la fanzinothèque. C'est une bibliothèque de conservation qui conserve le maximum de fanzines, de petites publications comme ça, quoi.
C'est un musée, en fait, le musée du fanzine.
Alors, ils ont une salle d'expo, mais c'est pas tant un musée, c'est vraiment une bibliothèque dont tu peux emprunter des titres, tu peux consulter sur place, il y a une salle de lecture et tout, quoi. Et quand je fais un atelier, j'envoie systématiquement
un
exemplaire à la fanzinothèque pour conservation. Et peut-être qu'un jour, les enfants qui auront participé à ces ateliers et ils deviendront des adultes, ils auront des enfants eux-mêmes et puis ils iront à Poitiers, ils feront « Ah, regarde, j'ai fait ça quand j'avais ton âge !» J'adorerais.
Ouais, c'est super. Et du coup, alors, ces ateliers pédagogiques, ils vont se dérouler sur combien de temps? Parce que j'imagine qu'une journée ou une après-midi, c'est trop court.
Non, ça va être des sessions. Alors là, c'est pour l'instant, en fait, entre les problèmes de Covid... et les travaux de la boutique qui ne sont pas finis, j'ai pas affiné mon programme pédagogique.
Okay. Tu reviendras nous voir alors?
Oui. Et puis je vais faire circuler l'info par le SCDD. Enfin, voilà. Mais j'ai vraiment envie que ces ateliers soient bien structurés. Du coup, ça demande un peu de temps de réflexion.
Bien sûr.
Et dont je ne dispose pas actuellement. Mais bientôt, ça sera en place.
Donc, des ateliers pédagogiques, expositions, de la bande dessinée.
Voilà.
Et puis... Die, rue 43 rue Camille Buffardel.
Puis, il y aura mon bureau d'éditeur aussi. Donc, s'il y a des gens qui se posent des questions sur comment ça fonctionne une maison d'édition, je serai là pour répondre aux questions, quoi.
D'accord. Il y aura un petit coin lecture aussi?
Oh, sans doute. J'ai pas encore envisagé. Enfin, c'est pas encore tout confort. Hein. Pour l'instant, il y a encore un échafaudage dans la boutique.
D'accord.
Le coin des lectures, il est loin. Mais oui, je me vois pas proposer des livres à la vente sans qu'on puisse se caler une fesse et bouquiner une BD, quoi.
D'accord. Donc, ça sera un lieu convivial. Hein.
Bah, je l'espère.
Mmh. Tu travailles en tout cas. Et elle va ouvrir quand alors cette boutique ?
Alors, je vais faire une ouverture un peu pas dans l'anonymat parce qu'on est là en train d'en parler.
Ça sera un peu bête.
Ouais, non
boutique, mais la boutique anonyme.
C'est que initialement, moi j'avais envisagé une ouverture en octobre. J'étais allé voir la bascule pour leur dire ah je vous réserve une tireuse et tout. Bon, et puis finalement, les travaux, c'est des travaux, c'est un chantier, il a pris un peu de retard. Et puis il y a cette situation sanitaire là qui m'embête, mais pas que moi. Hein. Du coup, voilà, je vais ouvrir la boutique. A priori, ça serait jeudi qu'elle va être...
Ce jeudi là ?
Ce jeudi 29 octobre.
Donc ouverture jeudi 29 octobre.
Voilà, mais ça sera juste ouvert et puis on fera une fête quand le monde aura arrêté de flipper. Enfin, si, il flippera toujours un peu.
S'il arrête de flipper.
Ouais, non, mais enfin, il sera moins flippé, quoi. Il y aura pas ce truc de. Disons qu'on pourra boire une mousse sans porter un masque, ouais. Ce qui est jamais très agréable.
Et t'as déjà calé des horaires d'ouverture ?
Ouais, alors.
Horaires et jours d'ouverture, si tu veux bien nous les
donc,
donner.
Le lundi, je serai ouvert l'après-midi.
À partir de quelle heure ?
À partir de 14h jusqu'à 18h. Il y aura sans doute pas mal de samedis où je serai fermé parce que j'ai une vie de famille aussi et que j'ai envie de m'occuper de mon fils des fois.
Très important.
Très important. Mais le samedi, il y aura pas mal de samedis où je serai ouvert de 10h à 13h. Et puis tous les autres jours de la semaine, je serai ouvert de 10h à 18h. J'ai tendance à me faire une pause casse-croûte assez rapide le midi, donc si voilà, c'est entre vos horaires de boulot que vous êtes disponible à midi et que vous avez envie de vous payer une bonne BD, je serai là.
Tu seras sur place ou il faut t'appeler ?
Non, je serai sur place. Si c'est fermé, c'est que ça va rouvrir un quart d'heure plus tard.
Donc voilà. Du lundi au samedi, mais tu n'as pas de jour de repos ?
Pour l'instant, non. Et surtout que je suis tout seul sur cette boutique. Mais en fait, on est dans tout un tas de dossiers en fait où on devrait faire un contrat de filière avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors, qu'est-ce que c'est ça ?
C'est un truc qui existe pour soutenir les maisons d'édition. Ouais.
Ok.
Ouais, parce qu'une
grosse subvention, c'est.
C'est un pack de subventions en fonction du projet de développement de ta maison d'édition.
Okay.
Et du coup, à partir de 2022 ou peut-être même courant 2021, mais j'y crois moins. J'aimerais qu'on soit deux, et surtout que je vais avoir besoin d'un ou une graphiste à un moment donné, quoi. Donc à bon entendeur, salut.
Ou bonne entendeuse.
Ou bonne entendeuse, salut. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, voilà, enfin, à un moment donné, j'aurai besoin de quelqu'un pour m'épauler, et du coup, on sera deux à la boutique, donc
D'accord.
Ce sera un peu plus relax. Il y a des jours où je serai fermé aussi, pas en ce moment, parce que tous les festivals sont annulés. Mais oui, effectivement, il y a quand même des moments où il y a des festivals de bande dessinée qui ont lieu. Voilà. Et d'ailleurs, le DIY est en train de se doter d'un petit festival de bande dessinée.
Ah bon ?
Oui. Mmh. Avec quelques amis, on a fondé une asso qui s'appelle DIY.
Ouais. DIY ?
Ouais, c'est pas une agence de voyage. C'est une asso qui a vocation en fait à donner du dessin, en fait c'est dessin en livre et dessin en live, c'est ça l'accroche. Et voilà, donc là c'est tout récent, hein. On a posé les papiers. C'est une association. Il y a la copine Florence qui vient d'accoucher, que je salue au passage et félicitations, mais elle est un peu prise. Moi, je suis un peu pris par les travaux. Voilà,
bon, on en reparlera de.
Ouais, mais de bientôt, ça. Bientôt, ça sera la fête.
De la BD ?
De la BD, Adi.
Du dessin, de l'art. On rappelle donc une nouvelle boutique Adi, The Hoochie-Coochie. Qui sera ouvert donc à partir du 29 octobre 2020 et donc les horaires d'ouverture, ça sera du lundi au samedi Donc le lundi de 14h à 18h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 18h avec une petite pause déjeuner et le samedi de 10h à 13h. Comment on te contacte ?
Donc je suis joignable au 06 08 71 82 49. Et si jamais je réponds pas, eh ben c'est normal, c'est que c'est un téléphone pro et que je l'éteins en fait en dehors des heures de boulot quoi.
Et The Hoochie Coochie a un site internet, il me semble.
Ouais, thehoochiecoochie.com. Mais vaut mieux que tu laisses une trace écrite sur ton site internet à toi, parce que bon, t'as vu comment ça s'écrit The Hoochie Coochie.
Oui.
Voilà.
Voilà.
C'est on n'a pas trouvé plus simple.
Je mettrai tout sur le site internet de RDWA. www.rdwa.fr. T'as un WordPress aussi, toi, je crois.
Oui, en fait, à la base, je devais pas être éditeur, je voulais être auteur, moi. Mais bon, quand on a fait ces fanzines, il en fallait un pour aller voir les libraires, déposer les fanzines, récupérer l'argent, donner une date de rendu pour les planches et tout. Et c'est tombé sur Bibi. Donc c'est comme ça que je suis devenu éditeur. Mais j'ai jamais lâché ma partie auteur. Et donc sur mon WordPress, alors en ce moment il est très très peu alimenté parce que je suis sur ce projet de boutique et tout quoi.
Mais ça donne déjà une bonne idée de ton travail en fait.
Voilà.
Tu nous donnes l'adresse ?
C'est gautierducatez.wordpress.com. Voilà. Et on y voit quelques planches de BD, je n'ai pas tout mis. On y voit aussi des peintures que j'ai faites pour une exposition de BD, parce que je n'aime pas montrer des planches. En fait, je trouve que les planches de BD, elles sont faites pour être lues dans un livre et pas montrées sur un mur. Et du coup, autant pour moi, mais avec les auteurs avec lesquels je travaille, j'aime qu'il y ait des pièces d'exposition qui soit produite s'il y a une exposition plutôt que de simplement montrer des planches, ce que je trouve complètement con, quoi. Et puis, ouais, il y a quelques gravures et mes illustrations pour la revue CQFD.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Ouais. Bah, je voudrais juste remercier quelques personnes sans qui rien n'aurait été possible. Bon, bien sûr, il y a tous les bénévoles de The Hoochie Coochie, mais il y a quelques personnes en plus. À commencer par mon amoureuse Stéphanie. Heureusement qu'elle est là pour rallumer la lumière quand je me perds dans le noir de temps à autre. Il y a les propriétaires de la boutique, en fait, monsieur et madame Niot, et qui m'ont filé un sacré coup de main sur les travaux. Bah, les copains Xavier et Flo qui ont été là aussi en soutien. Olivier Favresse, qui est menuisier ébéniste à Vacher-en-Quin et qui m'a énormément aidé pour le mobilier. Mon voisin Alceni, qui est venu me filer la main sur la peinture très 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 gentiment. Voilà. Et puis Serge Marcel, qui est un peu une figure de Dee et qui me soutient de longue date. Voilà. J'espère oublier personne.
Et du coup, on va se quitter sur une musique que tu as choisie.
Ouais.
Alors, c'est quoi ?
C'est Gut Feeling de Devo. Alors, pourquoi ? Parce que j'aurais pu choisir The Hoochie Coochie Man, mais je me suis dit, ouais, c'est trop classique, et puis ça fait un peu blues à papa, alors qu'on fait de la BD de punk. Et Devo est un groupe de punk. Non, mais j'ai choisi ce morceau pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est une petite référence cinématographique. C'est qu'il est dans La Vie aquatique de Wes Anderson, ce morceau, et puis à un moment où ils y croient plus, tout part en sucette et tout, et puis ils ont un regain de peps, et en fait il y a ce morceau qui passe dans la bande son, et tout d'un coup tout redécolle et tout redevient merveilleux et casse-gueule à la fois, bref, c'est beau. Et puis c'est un disque que je connais depuis belle lurette. Mais il y a quelques années, c'est mon amoureuse qui m'a offert le 33 tours. Et du coup c'était une façon de lui faire un petit clin d'œil d'amour. Mmh. Voilà.
Thank you.
Ben, merci beaucoup, Gauthier.
Merci, Tania.
À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Ciao.